Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé, napriek střelbě a napriek citovému pohnutí, které se připravuje.
Товарищи делегаты, уважаемые гости. 27-й съезд КПСС.
La guerre de Corée se poursuit sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros des combats de Taiwan.
The defense of our own security and of the entire Western Hemisphere.
Let me ask you one simple question. Do you placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide. Le 30 juin 1960, le Congo belge accède à l'indépendance sans passer par les armes. Une colonisation douce et rapide, mais fragile, bientôt saisie par les conflits internes et la guerre froide.
Ce mot d'indépendance est le mot de l'heure. C'est lui qui a conduit à Léopoldville le roi Baudouin, que la population a acclamé aux côtés de M. Kazavubu, chef du nouvel État congolais. Le palais de la nation avait attiré la grande foule. Là, le roi allait proclamer l'indépendance du Congo devant les deux chambres réunies et de nombreuses personnalités étrangères, parmi lesquelles l'abbé Fulbert Youlou, venu en voisin. Deux signatures, enfin, dont celle de M. Lumumba, chef du gouvernement congolais, mettaient fin à 80 ans de souveraineté belge.
Pierre Grosseur, on se trouve en plein mouvement de décolonisation de l'Afrique. Comment les deux blocs vont s'intéresser à ces mouvements d'indépendance africains et en particulier à l'indépendance de ce Congo belge?
Alors, les deux grands s'y intéressent pas énormément au début parce que d'abord, ils ont beaucoup de pain sur la planche avec tout un tas de problèmes un peu partout, notamment dans leur arrière-cour. Les soviétiques ont quelques problèmes avec les Chinois, par exemple, et du côté des Américains, on commence à avoir quelques problèmes avec l'Amérique latine. Il y a Monsieur Castro qui est arrivé au pouvoir en 59, si mes souvenirs sont bons. Donc, ils ont de quoi s'occuper. Et en fait, le problème, c'est que tous les deux connaissent assez mal l'Afrique. Et donc, c'est notamment avec le Congo belge qu'ils vont commencer à vraiment s'intéresser. Ça a été une crise très intéressante et très, très, très complexe parce qu'elle a fixé, justement, les débuts de la guerre froide au Congo, en Afrique, mais d'abord au Congo. Et ensuite, il y a eu des répercussions partout.
Par quelle voie les deux grands, les États-Unis et l'Union soviétique, vont se retrouver impliqués dans cette guerre d'indépendance congolaise?
D'abord, c'est une affaire au départ uniquement congolaise, hein. En tout cas belgo-congolaise. En fait, la Belgique est prise dans une ambiance de décolonisation, avec finalement d'un côté ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire l'Algérie. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est que les premières négociations belgo-congolaise date de janvier 1960, et on voit la cérémonie en juin 1960, donc en 6 mois c'est réglé. Donc on fait aussi passer une loi sur les intérêts économiques qui permettent en fait aux intérêts économiques belges de rester très largement en place. Mais donc c'est quelque chose qui n'a pas été préparé. Les négociations ont été quand même très largement bâclées, ont été évidemment organisées par les Belges, et donc la situation était dès le départ assez fragile. Et à peine une semaine plus tard, vous avez l'armée qui se rebelle. Et c'est là, pour la première fois, on commence à parler de Monsieur Mobutu, dont on parlera jusqu'en 1997. Bon. Et donc, vous avez une espèce de pas de putsch, mais disons de soulèvement terre. Donc, évidemment, inquiétude de la part des Belges pour leurs ressortissants. Donc, les parachutistes belges arrivent. Lumumba en appelle aux Nations Unies. Et donc, voilà, on arrive vite à l'internationalisation.
C'est l'internationalisation d'une guerre civile.
Il n'y a pas eu de guerre d'indépendance, hein. C'est quelque chose qui pourrait ressembler à une guerre civile. Et c'est la plus lourde intervention des Nations Unies. Il y avait 20 000 hommes qui y sont allés. Et ils ont eu l'autorisation de tirer. Ils ont fait la guerre, hein. Ce qui est évidemment aujourd'hui... Alors aujourd'hui, on parle évidemment d'opérations robustes où on peut tirer. Mais à l'époque, c'était très, très important que c'était pas une force d'interposition comme à Suez en 56, c'est une force qui a combattu et qui d'ailleurs en 62 reprend le Katanga par la force. Patrice Lumumba est démis de ses fonctions par le président, et évidemment sous la pression de la CIA, parce qu'on avait l'impression qu'il était beaucoup trop favorable aux soviétiques et qu'il allait être d'une certaine façon le Castro congolais. Bon, et donc évidemment ne voulait pas d'un Castro en Afrique. Et donc il est arrêté, il a été torturé, battu, exécuté, sans doute avec une très forte complicité des Belges, dès janvier 61.
Finalement, qu'ont appris chacune des parties prenantes de la guerre froide à la faveur de cet épisode congolais ?
Alors, du côté des Soviétiques, la leçon est assez claire, ils n'ont pas les moyens d'être vraiment efficaces dans la région. Et comme en même temps, en 1962, avec la crise de Cuba, ils s'aperçoivent qu'il leur manque une marine pour pouvoir faire vraiment quelque chose à Cuba, c'est une des raisons pour lesquelles ils vont se doter des moyens à partir du milieu des années 60. Alors évidemment, la flotte pour aller au Congo, on est bien d'accord que ça ne sert pas à grand-chose. Mais, disons, de moyens de projection pour pouvoir intervenir dans le monde entier. Et on le verra en Afrique notamment, quand ils vont soutenir les troupes cubaines en Angola ou dans la guerre de l'Ogaden entre l'Éthiopie et la Somalie. Les Soviétiques ont eu toujours beaucoup de mal dans les années 60 avec les régimes qu'ils ont soutenus en Afrique. Et voilà, ça n'a pas très bien marché, les Soviétiques en Afrique, dans les années 60. Ça va mieux dans les années 70. Ça, c'est pour les Soviétiques. Du côté des Américains, on s'aperçoit que les questions de décolonisation sont des questions extrêmement compliquées, qu'il faut tenir compte, notamment aux Nations Unies, évidemment de l'opinion d'une grande partie des pays africains qui, pour beaucoup, sont plutôt hostiles, évidemment, à la colonisation. Mais en même temps, vous avez un certain nombre de pays africains, notamment dirigés par la France, je fais exprès d'utiliser le mot « dirigé », qui ne veulent pas de présence communiste et qui veulent des bonnes relations avec les pays occidentaux. Donc, il faut manœuvrer dans tout ce monde-là avec à la fois des radicaux et des gens qui ne veulent pas, encore une fois, de régime marxiste en Afrique. L'autre leçon, et ça c'est quelque chose qui est important, c'est à l'époque de Kennedy. Hein, Kennedy qui arrive au pouvoir après les élections de novembre 1960, donc qui évidemment baigne dans cette crise congolaise, c'est qu'il a essayé d'éviter les interventions directes. Il faut tenir compte aussi, on est aussi dans le début des années 60, à la ségrégation raciale. Donc évidemment, par rapport aux Afro-Américains aux États-Unis, il faut faire attention à ce qu'on fait à l'extérieur. Voilà, la question africaine est aussi une question de politique intérieure aux États-Unis.